Bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Au menu, on regarde ce qui s'est passé pour nos Canadiens la semaine dernière, mais surtout, c'est le retour en action de Félix Auger-Aliassime. Pourra-t-il défendre son titre à Rotterdam? On va également faire le tour, comme c'est l'habitude, des différents gagnants de tournoi. Et en l'absence de Nicolas Richard, Hugues Léger, es-tu prêt?
OK, oui. Et c'est parti!
Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. On est également diffusé à BPM Sport. On est en association avec l'Omnium Banque Nationale et évidemment Tennis Canada. Hugues Léger, nous serons que deux aujourd'hui en direct de l'hôtel Montville. Nicolas Richard était affecté à des entrevues avec la presse, alors ce sera congé pour Nicolas Richard. Mais comment te portes-tu, Hugues? Comment s'est passé ton Super Bowl?
Ça s'est bien passé. Match excitant. J'avais prédit un match serré à ma charmante épouse pour l'encourager à garder le match et ça s'est confirmé. Elle l'écoutait jusqu'à la fin avec moi. Donc, on a passé un bon moment. Un bon match. Mi-temps, comme on n'est pas dans le secteur art et spectacle, on ne commentera pas trop. Mais j'avais l'impression que Rihanna n'avait pas l'air d'avoir tant envie d'être là, en fait. Mais c'était quand même un beau spectacle de mi-temps.
Ouais, je te dirais que j'aime le permettre, le commentaire. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé le setup, comme on dit. Je trouvais ça super beau. La réalisation télévisuelle était vraiment, vraiment belle. Bon, évidemment, là, avec une Rihanna qui était visiblement enceinte et elle l'a confirmé un peu plus tard, tu ne t'attends pas à ce qu'elle ait la même énergie sur scène qu'elle aurait autrement. Cela dit, effectivement, moi aussi, j'ai noté ça. Elle manquait peut-être un peu de sourire, un peu de charisme, peut-être là, d'une certaine manière, à mon avis, à moi. Et surtout, on n'a pas joué Please Don't Stop the Music. Alors ça, moi, c'était mon petit regret là, de ce spectacle-là, mais bon, la scène était vraiment, vraiment belle.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est vrai que Rihanna a souvent cette prestance-là. C'est pas inhabituel d'avoir comme ça. Mais la mise en scène, les plateformes flottantes, c'était vraiment très beau. Et quand il prenait la vue de caméra sur le long, c'était vraiment, vraiment impressionnant là, de voir ces plateaux de verre là, qui flottaient. Et très belle chorégraphie aussi autour de Rihanna. Donc, on a quand même passé un bon moment hier soir. Hein.
Ouais, moi, je l'ai fait, j'ai vécu mon party du Super Bowl avec le collègue Anthony Marcotte, avec qui on a diffusé des matchs cet été à l'Omnium Banque Nationale. D'ailleurs, on a reparlé un peu de ça, il était bien content, puis il était comme, il me disait même, ah, ce serait pas fou qu'on en fasse plus. Et je dis, c'est pas la volonté qui manque, il faut juste trouver les bonnes opportunités.
On y travaille justement. Effectivement, c'est des discussions qui ont cours. Le succès d'écoute qu'on a eu durant l'Omnium l'an passé avec notre couverture live et notre présentation des matchs de quart, demi et finale a incité BPM Sport et nous, toute l'équipe de Sur la ligne et Tennis Canada à explorer là, d'autres possibilités de contenu audio, donc potentiellement d'autres diffusions live. Donc, plus d'informations à suivre sur ce sujet-là, mais on est sur le dossier.
Bon, Hugues, on parlera pas trop de football trop longtemps parce que c'est pas notre mandat. Notre mandat, c'est de parler de tennis et c'est ce qu'on fait chaque semaine avec nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Bon, revenons rapidement là sur ce qui s'est passé la semaine passée parce que bon, on a fait l'émission, on a parlé de beaucoup de previews entre guillemets de matchs, mais si on avait entendu peut-être 24 heures là, on aurait pu presque faire le premier bloc tout de suite parce que on a perdu Rebecca Marino, Leila Annie Fernandez et Bianca Andreescu au premier tour à Abu Dhabi. Est-ce que ça t'a surpris de voir trois défaites comme ça au premier tour de trois excellentes Canadiennes? Ton micro.
Je me doutais, Alex, que Bianca avait un petit souci là, après son retrait lors de la demi-finale à Thaïlande la semaine précédente et qu'elle s'est peut-être même retirée pour se préserver pour Abu Dhabi, mais quand même une défaite au premier tour. C'était quand même décevant là, pour Bianca. De qui on avait vu des belles choses quand même en Australie quelques semaines avant. Donc, assurément une déception là, du côté de Bianca. On savait que Leila avait une grosse commande en Shelby Rogers. Je pensais bien qu'elle était pour gagner ce match-là. C'est ce que j'avais prédit la semaine dernière. Elle a perdu en 3-7. Un match accroché quand même, mais c'est quand même une déception pour Leila là, qu'elle n'ait pas pu passer le premier tour là-bas, assurément. Elle doit être déçue de son début d'année. Et du côté de Rebecca Marino aussi, une défaite contre Zen, qui est quand même une très bonne joueuse, là, la chinoise, 6-3, 6-3. Donc, on remet ça cette semaine. On va en parler un petit peu plus tard, mais ça a été une fin abrupte à Abu Dhabi pour nos trois Canadiennes.
Dans le cas de Bianca, là, si on veut essayer un petit peu de se consoler, là, elle a perdu contre une fille qui est allée ensuite faire toute une performance contre Béatrice Haddad-Maia.
Une terreur, oui. Ouais.
Et Béatrice Haddad-Maia, après ça, est allée battre Rybakina, là, alors qui est une championne de grand chelem. Alors, je sais pas si je vais trop loin dans ma défense des Canadiens, mais...
Non, mais Alex, tu fais bien en parler. On le dit souvent du côté féminin, ça reste quand même assez ouvert dans le top 50, ce qui est la position et de Bianca et de Leila. Et on sait que Rebecca Marino joue plus haute que son classement top 100 actuel. Donc, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en dehors des 3, 4, 5 premières mondiales du côté féminin. Donc, c'est une déception, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut juste pas que ça se reproduise trop souvent dans les prochaines semaines.
On va revenir à ces trois filles-là. Ben, en fait, pour l'essentiel, à Marino et à Leila Annie Fernandez un peu plus tard parce qu'elles sont au 14. Et quand on fera l'analyse des tournois un peu plus tard, on va y revenir. Du côté des hommes, bon, à Dallas, on surveillait Diallo et Chapovalov. Diallo a perdu contre Gomez et Chapovalov, lui, c'est une défaite au deuxième tour, son premier match contre Wu Yubing, qui a éventuellement remporté le tournoi. Est-ce que c'est décevant quand même pour Chapovalov, Hugues Léger?
Écoute, c'est un nom qu'on ne connaissait pas avant le tournoi, là, je vais être honnête. Puis même, je vous ai prédit avant la finale contre John Isner que Isner était pour gagner. Ça a été un match de fou en 3-7, 6-7, 7-6, 7-6. Est-ce que c'est une bonne défaite de Dennis? Ben, il n'y a pas de bonne défaite. Elles sont toutes mauvaises, elles sont toutes dures à accepter. Je pense qu'il aurait dû gagner ce match-là. Donc, je pense qu'il y a une déception pour Dennis Chapovalov. Et quand on regarde justement le fait que son adversaire finisse par gagner le tournoi, il doit avoir une petite amertume quand même du côté de Dennis. Donc, oui, il y a une déception. Du côté de Gabriel, ça a été un lucky loser. Hein? Il avait perdu au dernier tour des qualifications. Il est quand même rentré dans le tableau avant de s'incliner. Mais un match très, très serré, perdu en 2-7 à l'arraché. Donc, Gabriel, on le sait, c'est un projet qui est en évolution chaque semaine. Et il va commencer à passer des premiers tours des 250 très bientôt, j'en suis convaincu. Donc, semaine quand même qui s'est terminée très tôt pour tous les Canadiens. C'est un petit peu décevant globalement. La semaine passée, au point où je n'ai pas fait ma chronique du vendredi avec Jean Charles, parce que je dis, on va attendre la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine, il va y avoir plus de choses à dire. Et on n'est pas habitué qu'on n'ait aucun Canadien ou Canadienne qui aille loin sur une semaine. Ça fait longtemps qu'on a 5 joueurs inscrits et joueuses et que personne ne se rend plus loin que le premier ou le deuxième tour.
Ouais, tu fais bien de le souligner. Je veux dire, c'est pour ça que je dis d'entrée de jeu qu'on aurait pu faire le premier bloc de l'émission peut-être mardi à 8h le matin, puis on dirait à peu près la même chose. Bon, dans le cas de Gabriel Diallo, tu le dis, il était un lucky loser. C'est dommage parce que c'était un match très serré et c'est doublement dommage parce que c'est un gars qui l'avait affronté, Emilio Gomez, la semaine d'avant à Cleveland et ça avait été un autre match serré. Alors, d'après moi, là, Gabriel Diallo a une petite dent contre Gomez et la prochaine fois qu'il va l'affronter, il y aura certainement une motivation supplémentaire, mais on le prend quand même, une défaite dans le tableau principal, un lucky loser.
Oui, ça s'en vient bien pour Gabriel. Moi, j'ai tout à fait confiance en lui. On va le suivre de très près cette saison.
Et ce qui est positif quand tu es lucky loser, ben, c'est que bon, tu rentres en fonction de ton classement également dans le tableau. Alors, tu l'as gagné d'une certaine manière dans les semaines précédentes, ta place, si tu es chanceux. C'est pas si rare qu'on voit ça, des lucky losers.
Juste pour le bénéfice de nos auditeurs, un lucky loser, c'est un joueur qui a perdu au dernier tour des qualifications. Et il y a un joueur qui se retire du tableau principal pour une raison ou une autre, souvent une blessure. Et le joueur le mieux classé qui a perdu au dernier tour est repêché pour le tableau principal. Et c'est ce qui est arrivé à Gabriel la semaine dernière.
Alors, exact. Mais c'est de l'expérience de plus pour un gars qui en est. Ben, c'est une recrue sur le circuit professionnel. Il n'a que 21 ans, là. Puis, bon, il sort tout juste des collèges américains. Alors, bon, c'est de l'expérience de plus, un match de plus dans un tournoi de niveau ATP. Alors, ben, il va le prendre. J'en suis convaincu. Bon. Quand on regarde les gagnants de la semaine passée, Hugues, bon, je te parlais de Chapovalov qui a perdu contre Wei Yubing. Ben, Wei Yubing a peut-être joué le tournoi de sa vie, tu l'as dit, contre John Isner à Dallas aux États-Unis. Ça ne devait pas être facile. Et pourtant, quelle semaine il a reconnu ce jeune homme.
Oh oui, il l'a pas volé. Gros boost de confiance. On voit des joueurs et joueuses chinois qui commencent à émerger aussi sur le circuit. C'est un mouvement des plaques tectoniques aussi au niveau du tennis. C'est une nation qui commence à vraiment émerger de façon importante. Je pensais pas que ce joueur aurait les armes pour rivaliser contre Isner en sol américain, mais encore une fois, on voit que même un joueur avec un excellent service, ça peut se jouer au tie-break, et c'est ce qui est arrivé dans les 3-7. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais super match, vraiment un match très spectaculaire à regarder pour ceux qui ont eu la chance de voir ce match.
Si vous ne le connaissez pas, Wei Yubing, là, c'est toujours l'éternel débat dans quel sens on le prononce, bien, c'est un peu normal parce qu'il joue pour l'essentiel des Challengers. Il a fait un troisième tour l'an passé au US Open. Il a gagné quelques Challengers l'année passée, là, cela dit, mais depuis le début de l'année, il n'avait pas fait grand-chose. Là. Bon, il avait perdu au premier tour en Australie. C'était même pas qualifié à Adélaïde. Alors, c'est vraiment surprenant de le voir remporter Dallas. Cela dit, il avait quand même fait la finale du côté du Challenger de Cleveland. Alors, c'est un gars peut-être qui arrivait avec de bonnes sensations, des bons... avec quelques matchs, là, il n'a pas perdu beaucoup dans les deux dernières semaines, mais il reste que c'est quand même surprenant parce que dans ce tournoi-là, Hugues, attache ta tuque, il a battu Chapovalov, on le sait, il a battu Manarino, vétéran sur le circuit, il a battu Taylor Fritz.
Oui, attends, et Manarino, très compliqué à jouer. C'est un joueur qui a plus d'un tour dans son sac. Donc, Chapovalov, sacrée performance. Marinaro, sacré. Manarino, pas Marinaro, c'est un autre. sacrée performance. Et effectivement, Taylor Fritz, après, qui est un des meilleurs joueurs américains et un meilleur joueur du circuit en ce moment. C'est une semaine inoubliable. Espérons qu'il pourra bâtir là-dessus, par contre, parce qu'il faut renouveler maintenant ce genre de performance.
Ah, ben là, c'est ça. Là, il est dans le top 57, là. Et au moment où on se parle, 58e rang mondial. C'est sûr que tu gagnes beaucoup de points là, quand tu gagnes un tournoi ATP et que tu n'as pas beaucoup de points à défendre. C'est son premier titre en carrière. Là, je le disais, il y avait 4 titres Challenger avant ça. Là. Mais ça sera un nom à surveiller. C'est peut-être, d'une certaine manière, du côté masculin, le Karatsev ou le Béatrice Haddad-Maia, un joueur qu'on n'a pas vu sortir, mais qui va monter dans les classements assez rapidement. C'est quand même, il a 23 ans. Là. Il n'est pas si jeune que ça, il n'est pas si vieux, là, entendons-nous, mais c'est quand même pas un jeune de 18 ans là, qu'on n'attendait pas. Alors, ce sera quand même un nom à surveiller dans les prochaines semaines. Autre tournoi qui est intéressant en France, dans ton ancien patelin, façon de parler, là, ancien pays, à Montpellier, ben, c'est Sinner, un de tes joueurs là, que tu aimes regarder, un des joueurs spectaculaires sur le circuit qui a remporté le tournoi.
Ouais. Vous savez, j'avais été très dur avec Sinner dans mon évaluation de fin d'année 2022. Ouais. Pour moi, c'était une des déceptions de l'année. Il n'avait pas réussi à améliorer son classement. Quelques blessures aussi. Un match d'anthologie quand même, je le souligne encore, contre Alcaraz au US Open. Quart de finale, inoubliable. Sinner, belle victoire à l'Open Sud de France à Montpellier. Il a bien maîtrisé cette semaine-là. Donc, il parle l'année du bon pied, Sinner. Sur un terrain, encore une fois, je ne comprends pas les organisateurs qui mettent des terrains clairs. C'est un terrain rose-orange là, qu'on avait à Montpellier qui ne sortait pas très bien au niveau de la télé. Mais trêve de commentaires sur la qualité de production. Sinner lance bien son année avec un tournoi indoors. Il y a un jeu qui s'y est très bien à ce genre de conditions et ça a été une très belle victoire là, de Yannick Sinner lors de la finale hier.
Victoire en finale contre l'Américain le plus français alors c'est intéressant d'avoir Maxime Cressy quand même en finale dans un tournoi français.
Là. Oui, puis soulignons que Cressy avait quand même battu Holger Rune qui était premier favori du tournoi en 3-7 serré, là, 7-5, 6-7, 7-6. Sacrée victoire pour Maxime Cressy contre Holger Rune là, qui est un des joueurs chauds du circuit. Et je veux quand même mentionner la performance du jeune français Arthur Fils qui s'est rendu jusqu'en demi-finale finale. C'est un tournoi d'éclosion pour lui, je dirais. Là, c'est une performance quand même étonnante de Arthur Fils, qui a eu une semaine impressionnante avec notamment une victoire contre Roberto Bautista Agut, qui était quatrième favori. Donc, le jeune Français à 18 ans là, qui émerge sur le circuit en ce moment.
Exact. Ben, tu fais bien de le souligner parce que je l'avais dans mes joueurs à surveiller. Il a battu aussi Gasquet dans ce tournoi-là. Oui. Et tu sais, on en parlait hors d'onde que Gasquet connaît quand même de bons moments en fin de carrière. Alors, c'est pas un adversaire si facile que ça à affronter. Et il n'a que 18 ans, oui. Arthur Fils. Alors, il faudra le garder attention. À l'œil. Oui. Oui, exact, exact. C'est peut-être un premier grand coup d'éclat. Il le fait à la maison. Il a battu Quentin Alice également dans ce tournoi-là. Quentin Alice, c'est un ancien très bel espoir français qui s'est peut-être pas développé autant que ce que le tennis français l'aurait espéré, mais qui est quand même un joueur redoutable sur le circuit. Tu l'as mentionné, Yannick Sinner qui remporte ce tournoi-là. D'ailleurs, il a fait un bon match contre Sinner, Arthur Fils, là, un 7-6, 7-5-6-2. Alors, c'est pas gênant contre un joueur de la trempe de Yannick Sinner.
Très belle semaine. Effectivement, moi, je l'ai suivi avec attention et je le regardais du coin de l'œil souvent. Il me faisait penser un peu à Félix, un peu la même dégaine. Il lui ressemble un peu physiquement, mais au niveau du jeu aussi, un joueur qui est très, très agressif du fond de terrain, très bon coup droit, très bon service. J'ai beaucoup de plaisir à le regarder. J'ai hâte de voir la suite de sa saison.
Il y a quelques tournois en Argentine également. Là, simplement mentionné que Sébastien Baez l'a emporté à Cordoba. Oui. C'est un Argentin d'ailleurs qui l'a emporté à la maison. Du côté des femmes, revenons rapidement sur le tournoi d'Abu Dhabi. Ben, c'est Bencic qui l'a emporté. C'est une belle victoire là, pour Belinda Bencic.
Elle est toujours là, hein, une vétérane, toujours dangereuse, la Suissesse qui a sorti nos filles lors de la Billie Jean King Cup en quart de finale, dans les phases finales à l'automne dernier. Bencic, toujours menaçante, et c'est une fille qui va continuer d'être présente dans le top 10 et d'être une... quelqu'un que plusieurs joueurs voudront éviter, je crois, encore cette année, là, parce que son expérience lui sert beaucoup et elle joue vraiment très bien. Donc, c'est une très belle championne.
C'est un excellent début de saison pour Belinda Bencic, puisque c'est son deuxième titre déjà cette année. La saison, elle est jeune. Elle avait remporté le tournoi d'Adélaïde un peu plus tôt cette année contre Kazatkina. Et là, elle remporte cette finale contre Samsonova, qui est une excellente joueuse également. Alors, excellent début de saison pour une ancienne championne de la FIRC Cup Rogers, maintenant Omnium Banque Nationale. Alors, félicitations à Belinda Bencic qui l'a emporté à Abu Dhabi. Et rapidement, Petra Martic, elle l'a emporté à Linz. Et elle aura battu au passage Maria Sakkari, notamment dans son tableau. Alors, Petra Martic là, qui remporte un tournoi. Voulais-tu ajouter sur cette victoire de Petra Martic, mon cher Hugues?
Non, encore un peu le même cas de figure. Je pense que c'est une défaite qui est décevante pour Sakkari, qui a des très grandes ambitions. Elle l'a dit dans Breakpoint, pour ceux qui l'ont vu, je vais être numéro un. Bon, vous allez me dire que toutes les joueuses qui jouent, qui sont top 50, aimeraient être numéro un. Mais Sakkari, on le sait à quel point elle s'entraîne dur. Elle est une joueuse ambitieuse, elle est une joueuse physique et elle peut battre les meilleurs. Donc, je pense que c'est une défaite en finale qui va être décevante pour elle. Elle a beaucoup, beaucoup d'ambition pour cette année, Sakkari. Elle ne voudra pas échapper ces matchs-là trop souvent.
Ouais, c'est une défaite en demi-finale là, contre Martic. Là. Sakkari, c'est ça. C'est la coche qui manque pour aller. T'sais, elle ne fait pas de mauvais résultats. Elle se rend de façon générale assez loin dans les tournois. Mais
dans le final,
exact. Mais quand il arrive le temps de remporter le gros match, et là, je veux dire, c'était à elle de perdre ce tournoi-là parce que, la finale, c'est ça. Petra Martic, ce n'est pas une joueuse qui fait des résultats réguliers comme Maria Sakkari. Alors, c'est pour ça que je voulais qu'on puisse en glisser un petit mot sur ça. Hugues, on va faire une courte pause. Et là, au retour, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Félix Auger-Aliassime est de retour en action.
En collaboration avec l'Olé, toutes les suites de l'Hôtel Montville disposent maintenant de 2 tapis de yoga. Vous trouverez également des capsules vidéo sur les télés pour vous permettre de suivre des cours en chambre et à l'heure qui vous convient. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Cadeau Saint-Valentin de dernière minute? Offrez le Montville pour la Saint-Valentin à votre bien-aimé. Les cartes cadeaux digitales sont à moins 10% jusqu'au 14 février. Rendez-vous sur hotelmontville.com dans l'onglet « Promotion ».
De retour sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Hugues Léger, j'en parlais avant la pause. C'est le grand retour de Félix Auger Aliassime chez lui, d'une certaine manière, parce que ce tournoi-là à Rotterdam aura, à mon avis, à moi, l'an passé, tout changé pour Félix Auger Aliassime. C'était finalement le titre qu'on attendait après ses multiples défaites en finale. Il remportait son premier titre à ATP. Et là, il est de retour pour défendre son titre. De façon générale, à quoi t'attends-tu du Québécois?
Écoute, c'est un tableau boosté aux stéroïdes cette année, ce ATP 500 à Rotterdam. Ça va être difficile pour Félix, je le dis, d'entrée de jeu, d'aller chercher à nouveau ce titre. Donc, la table est mise pour une semaine vraiment, vraiment excitante. Écoutez, on regarde les 8 favoris. Tsitsipas, Rublev, Félix, Holger Rune, Urkacz, Medvedev, Karina Busta et Alexander Zverev. C'est un tableau extrêmement, extrêmement relevé. Encore plus que l'année dernière. Sans rien enlever à sa victoire, oublions pas qu'il avait battu quand même Tsitsipas en finale. Donc, mais pour renouveler cette année, ça va être compliqué. Et ça commence contre l'Italien Lorenzo Sonego, qui est un sacré client aussi dès le début, et avec une potentielle rencontre contre Medvedev dès le troisième tour. Donc, suivez Félix de près parce que ça va être vraiment excitant et c'est pas gagné d'avance pour lui cette semaine. Il y a beaucoup de travail qui l'attend.
Ouais, t'as raison. Là, il n'y aura pas de match facile et même quand on regarde ce qui pourrait se passer les quarts de finale, c'est-à-dire son troisième tour, non, ce serait… c'est ça.
Medvedev, troisième tour.
Exact. Il y a pas, si on regarde les joueurs favoris, il n'a pas une fiche gagnante contre les joueurs qu'il pourrait affronter à partir du quart de finale.
C'est Rublev qui est en bas du tableau qu'il pourrait rencontrer encore.
Et peut-être, en fait, encore, ce serait Medvedev en demi-finale, Rublev, possiblement.
Demi-finale, pardon, oui.
Oui, exact. Et Tsitsipas du côté de la finale, qui est tout au haut du tableau, Tsitsipas, il n'a pas une fiche gagnante contre, aucun de ces joueurs-là. Et même s'il devait passer le premier tour, Sonego, là, il a une fiche de 1-0 contre Sonego. Mais au deuxième tour, ce serait peut-être un David Goffin. Et David Goffin, on peut dire ce qu'on veut, mais ce ne serait pas facile à affronter, même s'il est au-delà de la 40e place mondiale.
Je le répète souvent, Goffin, c'était le partenaire de choix d'entraînement de Roger Federer parce qu'il a une constance incroyable, une bonne cadence de frappe aussi. Donc Goffin, qui est un vétéran du circuit maintenant, mais qui peut causer beaucoup de surprises. Donc, attention pour Félix, si jamais c'est son adversaire au deuxième tour.
Dans le cas de Félix Auger-Aliassime et de Sonego, si on revient au premier tour, ces deux-là se sont affrontés pour la dernière fois et la première fois chez les professionnels, du moins, là, c'est en septembre 2020, ça se passait à Hambourg et c'est Félix qui l'avait emporté 6-2 et 7-6, alors ça n'avait pas été visiblement un match si facile que ça, alors tout un défi pour Félix Auger-Aliassime, mais garde. Il devra battre d'excellents joueurs à tous les tours pour défendre son titre. C'est définitivement pas impossible, mais il a toute une commande cette semaine, comme tu le mentionnais si bien, Hugues. Mais bon, on jase. Là. Je te demande ton feeling. Là. Toi, ça ressemble à quoi? Tu le vois aller jusque où dans ce tableau-là?
Félix, il peut gagner... Il peut gagner tous les tournois, incluant des grands chelems, dès cette année. Il y en a qui le mettent déjà comme favori à Wimbledon en raison de son superbe one-two-punch, service, coup droit, quand les deux fonctionnent très bien. Donc, c'est un prétendant au titre de Wimbledon cette année, rien de moins. Cela dit, vous le savez, on est toujours un peu inquiet par ses premiers tours. Félix a besoin de prendre son rythme, on dirait, à chaque semaine, de recommencer pour chaque tournoi. Et son premier tour est souvent accroché et on va aussi parfois avoir des défaites au premier tour. Et c'est encore une fois un premier tour au piège contre Sonego à Rotterdam. Et il ne peut pas se permettre de perdre ses points. Ça, c'est l'autre truc. Là. Il a perdu une place au classement cette semaine. Là, il y a un 500 points à protéger. Et on voit que Urkacz, Medvedev souffle dans son dos déjà. Donc, écoutez, moi, encore une fois, le cliché, un tour à la fois. Mais je suis toujours inquiet du premier tour de Félix. Une fois qu'il l'a gagné, tout est possible, mais le premier tour, on va regarder ça, puis on en reparlera après.
C'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué. Bien, c'est le cas pour beaucoup de joueurs, en fait, ce premier tour-là, là, pour être très transparent. T'en parlais tout à l'heure, Hugues, c'est un tournoi où il y a vraiment beaucoup de bons joueurs et il y a beaucoup de matchs de premier tour qui sont assez intéressants pour un tournoi de ce calibre-là. Ce matin, il y avait Richard Gasquet contre Pablo Carreño Busta. Et Richard Gasquet, tu soulignes bien, l'a emporté. Oui. Alors, c'était un match particulièrement intéressant et ça ajoute au fait que, bon, Richard Gasquet connaît quand même de moments intéressants là, en fin de carrière, mentionnons-le. Bon, Stefano Tsitsipas, c'est tout au haut du tableau. Yannick Sinner est dans ce tableau-là, vient tout juste de remporter un tournoi, on l'a dit. Holger Rune est dans ce tableau-là également. Alexander Zverev, Daniil Medvedev contre Davidovich Fokina, c'est un match de premier tour intéressant, c'est pas gagné ce match-là. Félix contre Sonego, on en a parlé. Hubert Hurkacz contre Roberto Bautista à Agut, match de premier tour. Ça pourrait être un quart de finale de n'importe quel grand chelem, ce match-up-là. Alors ça, c'est intéressant. Je sais que tu suivais Grigor Dimitrov et Aslan Karatsev ce matin.
Qui a gagné. Oui,
victoire
assez facile de Dimitrov là, en 2-7. T'es passé rapidement sur un des matchs de premier tour qui, pour moi, est un match probablement popcorn, je vais l'appeler comme ça, parce que les deux peuvent produire des moments excellents. Je pense à Wawrinka contre Bublik. Bublik qu'on a vu détruire trois raquettes de manière spectaculaire la semaine dernière à Montpellier. Trois de suite, hein, pas trois durant le match, là, mais trois une après l'autre. Il a vidé la moitié de son sac de tennis après ce point-là. Mais Wawrinka, qui connaît aussi un assez bon début de saison, c'est un match qu'on va regarder qui va être aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
Difficile à prédire ce que Wawrinka peut faire parce que, bon, dans les dernières années, il n'a pas été à la hauteur du champion de grand chelem. En fait, il est en fin de carrière, là, disons-le comme ça, mais évidemment, ouais. Ce n'est plus le champion de grand chelem qu'il était. Alexander Bublik, ouais. C'est un gars qui laisse personne indifférent, joueur, partisan. Si Nick Kyrgios est le bad boy par excellence de l'ATP, Alexander Bublik est dans la même catégorie. Je ne sais pas, est-ce que j'exagère? C'est un gars qui laisse personne indifférent, en tout cas.
Je dirais encore plus étrange que Kyrgios. Kyrgios, on commence à connaître le personnage un peu plus. Hein. Mais Bublik, on ne sait jamais ce qui va avec lui. C'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. On ne sait jamais ce qui va nous sortir. Et c'est pas toujours, chic ou plaisant pour ses adversaires-là. C'est un gars qui n'est pas évident à jouer. Très, très grand talent. Un petit peu arrogant aussi. C'est un autre joueur qui va se servir à la cuillère de temps à autre. Il peut sortir des lapins de son chapeau à n'importe quel moment. Mais encore une fois, ce Wawrinka Bublik m'intrigue au premier tour. Là. On va regarder ça plus tard aujourd'hui à Rotterdam.
Je serais curieux d'avoir Nicolas Richard avec nous parce que je suis sûr qu'il y aurait... ce ne serait pas son joueur préféré.
C'est pas son bague, non, c'est certain. Non.
C'est ça, exactement. Il y a Maxime Cressy qui est dans ce tableau-là également, on vient de le dire, il vient de faire une belle finale dans son cas. Et peut-être le match, à mon sens, le plus intéressant du premier tour, et c'est un match popcorn, pas à peu près, Alex de Minaur contre Andrei Rublev au premier tour. Ouch! Écoute, Rublev, c'est pas fait pour lui. Là. On le voit dans le tableau de Félix, Rublev, loin, mais ça se peut très bien qu'il passe même pas le premier tour, là.
Je peux vous dire que ça va être un match pour les amateurs de grosses frappes en coup droit parce que les deux ne laissent pas leur place. Donc, c'est le premier qui va craquer. Vous allez me dire que c'est toujours le cas au tennis, là, mais là, c'est deux styles extrêmement semblables. Rublev encore plus en puissance qu'Alex de Minaur. De Minaur avec une superbe défense aussi. Ça va être un match très, très divertissant, Alex de Minaur contre Rublev au premier tour.
Et veux-tu que j'ajoute une information? Alex de Minaur est 2-1 contre Rublev en carrière. Alors, prometteur, il a l'avantage. Prometteur. Alors, c'est pas fait pour Andrei Rublev dans ce premier tour. En tout cas, c'est un tournoi à Rotterdam qui va être particulièrement intéressant, oui. Hugues, autant pour Félix. En tout cas, si Félix se rend loin dans le tournoi, il pourra dire mission accomplie parce que c'est un tableau pacté, comme on dit. Et celui qui finira champion de ce tournoi-là va envoyer un message clair à tout le reste de l'ATP, je pense.
Oui, avant de commencer à se préparer pour le Sunshine Double qui s'en vient rapidement pour tous ces joueurs et pour toi, mon cher Alexandre, parce que tu seras à Indian Wells cette année, yes. Pour le podcast. Mais je voyais, petite anecdote, je vous envoyais ça sur notre fil de discussion hier, Félix qui s'entraînait avec Daniil Medvedev. Je trouvais ça très intelligent de sa part parce que Medvedev, on le sait, est un des meilleurs tacticiens du circuit, compliqué à jouer, Medvedev. Et le niveau d'intensité de cette pratique entre Medvedev et Félix était vraiment impressionnant. Donc, les joueurs prennent ce tournoi-là très, très au sérieux par cette session de pratique-là entre Daniil Medvedev et Félix, deux joueurs du top 10.
Écoute, si tu veux que les balles reviennent de ton bord du filet, tu joues contre Medvedev parce que c'est un des gars qui retourne le plus de balles sur le circuit.
Mieux connu sous le pseudonyme La Pieuvre, parce qu'on dirait qu'il y a plusieurs tentacules, plusieurs bras pour attraper toutes les balles qu'il réussit à ramener.
la pieuvre, et te souviens-tu de son surnom au tournoi de Mouratoglou?
Non, c'était quoi?
Le Chess Master.
Ah ben, Chess Master, ça lui va tellement bien parce que c'est un très bon stratège. Puis on en parle aussi assez régulièrement. C'est un gars souvent qui va perdre le premier set, mais qui va trouver des façons de gagner. Donc, d'où son intelligence de jeu au niveau tactique. Là. Moi, je suis un grand fan de Medvedev.
Alors, ça va être intéressant. Passons du côté des femmes, Hugues. Bon, au 14, c'est déjà fini pour Leila Annie Fernandez. Elle a dû se qualifier pour ce tournoi-là, mais elle a perdu contre Carolina Pliskova. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est quand même une ancienne numéro un mondiale, une des filles les plus puissantes sur le circuit.
Ouais.
C'était pas un adversaire facile, là.
Non, deux finalistes de Grand Chelem qui se rencontrent au dernier tour des qualifications. Pourquoi? Ben, c'est un tournoi qui est aimé des joueurs et des joueuses, des bourses intéressantes, mais sûrement des cachets garantis aussi, ce qui fait que tu as beaucoup de joueuses de très haut niveau là, qui se retrouvent même dans le tableau des qualifications et qui sont dans le top 50 au niveau mondial. Mais encore une fois, il faut que Leila gagne ces matchs-là. Moi, je vois une déception là, deux semaines de suite avec des défaites rapides et pas de premier tour dans le tableau principal au Qatar pour Leila. Je pense qu'elle doit être déçue. Elle doit être à la recherche de solutions en ce moment. Bonne nouvelle, elle est en santé. Aucun signe de problème ou de pépin physique. Et Leila, on sait, c'est une combative, c'est une guerrière. Elle va trouver des solutions. Mais c'est une semaine qui se termine encore une fois un peu rapidement pour elle cette semaine.
Mais ça dit la profondeur du tournoi oui. Quand tu as deux finalistes de Grand Chelem.
Quand
tu sais, je veux dire, qui sont en qualification, là, alors c'est pas évident. Là. C'est pas comme si c'était 10 no-names en qualification, puis là, tu pars. C'est pas le même genre de tournoi, là, malheureusement. Par contre, Rebecca Marino, elle, a bien fait.
La bonne nouvelle, Marino, qui se qualifie pour le tableau principal, encore une fois. Donc, Marino va continuer de monter au classement. Donc, c'est intéressant ce qui se passe avec Rebecca. On s'est dit, elle a eu une très bonne saison 2022, ce qu'elle pourra la répliquer cette année, mais c'est bien parti pour ça. Donc, elle flirte là avec des victoires contre des top 20, top 30, top 40. Donc, le classement de Rebecca Marino va continuer de progresser. Cette belle histoire de cette seconde phase de carrière se poursuit pour Rebecca Marino. On est vraiment, vraiment content pour elle. Et si je regarde le tableau là, rapidement, Rebecca se retrouve...
Elle va jouer au premier tour contre Daria Kazatkina.
C'est prenable?
Ben, c'est prenable, mais c'est un pas pire défi. Là.
Oui, c'est bon. Donc, la championne de Granby cette année, la Russe Kazatkina, qui est sixième favorite du tournoi. Écoute, moi, j'aime ce match-up-là. Le gros retour de Rebecca Marino en coup droit peut faire mal à Kazatkina, qui n'a pas un service à tout casser. Donc, moi, c'est un match qu'on va vraiment regarder de toute façon là, avec beaucoup d'intérêt. Mais ce premier tour pour Rebecca, pourquoi pas. Elle sort de deux victoires en qualif, donc elle est encore une fois sur un momentum. Les joueurs qui rentrent des tableaux de qualification sont toujours acclimatés aux conditions, au terrain et tout ça, au bal. Donc, pourquoi pas une victoire au premier tour contre Kazatkina et après une rencontre potentielle contre Paula Badoza ou Béatrice Haddad-Maia qui serait plus compliquée là, selon moi. Mais voilà, qui est de voir Marino dans un tableau de WTA 500, ça fait très plaisir.
Oui, et bon, en qualif, il faut mentionner qu'elle a battu Bouskouva, qui est une excellente joueuse. C'est une 26e mondiale au moment où on se parle. Alors, c'est pas banal. Et effectivement, Daria Kazatkina, c'est une excellente joueuse. C'est pas la fille la plus puissante sur le circuit, vraiment pas. Elle retourne beaucoup de balles, cela dit.
Oui.
Alors, ça va être intéressant. Et c'est un peu déjà dire d'une certaine manière, mission accomplie. Bianca Andreescu n'est pas en action cette semaine, Hugues. Et c'est pas si surprenant que ça.
Ben, on en parlait beaucoup la semaine passée. Je voulais qu'on en reparle un petit peu. Puis notre conclusion à toi et moi, Alex, c'était pour Rebecca, elle a l'air en forme, mais moi, je crains qu'elle soit fragile encore. J'ai hâte de voir. Bon, physiquement, on a vu, elle a un pépin à l'épaule. Là. J'ai hâte de voir les prochaines semaines là, dans quel état elle sera. Elle a déjà gagné à Indian Wells, qui s'en vient bientôt. Elle voudra bien faire là, dans le Sunshine Double, qu'elle apprécie particulièrement. Mais je suis en mode wait and see pour Bianca dans les prochaines semaines. Et j'espère que mentalement, physiquement, ça ira bien. Parce qu'encore une fois, elle peut produire un tennis qui lui permet de battre les meilleures joueuses au monde. Et j'aimerais ça la voir compétitionner contre les Sakkari, contre les Sabalenka, contre les Rybakina et autres. Jabeur qui s'est fait opérer d'ailleurs. On va l'avoir un petit peu moins dans les prochaines semaines, mais j'ai envie de voir Bianca jouer ces matchs vedettes-là et j'espère qu'elle pourra s'y rendre parce qu'en ce moment, je crois qu'elle joue très bien, mais j'ai un petit doute sur sa capacité dans la durée cette année.
Et si on regarde bon, les autres joueuses qui seront de ce tournoi-là, on parlait des qualifications qui étaient très relevées. Le tableau l'est tout autant. Iga Świątek est au sommet de ce tableau-là. Bon, on sait ce dont
elle est. Gros tableau.
Hein. Ouais. Victoria Azarenka.
Coco Gauff. Oui.
Exact. Bencic qui vient tout juste de remporter un tournoi, qui connaît toute une saison. Samsonova contre Kenin au premier tour. Match intéressant également. Krejcikova, Sakkari. Bon, Pliskova, elle est là également. Là. Caroline Garcia est de ce tournoi-là. Oui. Badoza, Adid Maia au premier tour. Gros, gros, gros tableau. Oui. Keys Ostapenko au premier tour. Et Jessica Pegula.
Ah, bon,
je veux dire, il n'y a pas de no-name.
C'est vraiment, on a tant du côté féminin que masculin cette semaine. Ceux qui ont envie de voir du tennis à la télé au mois de février pour se réchauffer un peu, là, regardez ça parce qu'il y a des matchs de très haute qualité qu'on va voir cette semaine.
D'ailleurs, Jessica Pegula là, qui est inscrit également en double dans ce
tournoi. Avec Coco Gauff.
Oui. Avec Coco Gauff, qui est une des meilleures paires de doubles au monde, oui. Si ce n'est que la meilleure paire de doubles au monde, diront certains. Alors, ça va être un match intéressant. Et bon, en terminant, à Cherbourg, au Challenger de Cherbourg, il y a Vašek Pospisil qui, lui, y sera. Il a fait une finale lors de son dernier tournoi en Challenger. Il a perdu en finale contre Safiulin. Et je regardais rapidement les adversaires qu'il pourrait affronter. Il a une fiche nulle et ou gagnante contre tous les joueurs qu'il pourrait affronter. Alors, il y a raison d'être optimiste pour Vašek qui décide de jouer un petit peu plus de challenger et de gagner un peu plus de matchs à la place de jouer des tournois ATP.
Ben moi, j'aime bien que Vašek Pospisil étire sa carrière. Il y a encore des capacités de se rendre loin dans les tableaux de Challenger. Il a d'ailleurs gagné à Drummondville, on s'en souvient, l'automne dernier. Et il va pouvoir rentrer dans quelques tableaux de Grand Chelem. On va le voir à Toronto sûrement pour le Meilleure Banque Nationale cette année. Et il peut faire des dommages dans des tableaux de tournois de très haut niveau encore, Vašek. Donc lui aussi, c'est une belle deuxième phase ou fin de carrière. Là, je suis prudent de comment je le qualifie. Mais il réussit à jouer à un très, très haut niveau et un joueur essentiel à notre équipe de Coupe Davis aussi, évidemment, là, qui a contribué à gagner le championnat du monde à l'automne passé.
Ouais, ça fait 2 ans ou à peu près là, qu'il joue plus de Challenger que de tournois ATP. Là. Ouais. L'année passée, il en a gagné 2. Bon, il a joué Dallas et Tel Aviv où il a fait des quarts de finale, là, mais sinon, pour l'essentiel, ce sont tous des Challenger et ou bon, Montréal où il a perdu au premier tour et il a perdu en qualification dans des gros tournois, mais c'est peut-être une bonne stratégie dans le cas de Vašek également de jouer ses Challenger et de se donner une certaine confiance. En fait, c'est toujours un joueur qui peut embêter n'importe qui sur le circuit. Là. Puis
Alex, je voulais dire aussi financièrement, il y a une stratégie aussi pour lui derrière ça, parce que en augmentant ses points en Challenger, c'est pas là qu'il va faire beaucoup d'argent, on s'entend, mais il monte ses points, il monte son classement pour entrer dans des premiers tours de Grand Chelem pour aller chercher un 100 000 $ au minimum pour une semaine, pour un tour ou deux à Grand Chelem, voire plus que 100 000 évidemment s'il passe un tour. Donc je pense que tout ça fait aussi partie du calcul pour Vašek, et il a du plaisir à jouer, il est en forme, alors pourquoi pas.
Bon, on va suivre Vašek cette semaine alors qu'il est en France. Hugues, on va faire une courte pause au retour. Ben, c'est notre traditionnel bloc à surveiller. On va regarder d'autres tournois dont on n'a pas parlé encore et on a des nouvelles du classement de la Coupe Davis.
En collaboration avec Lolé, toutes les suites de l'Hôtel Montville disposent maintenant de 2 tapis de yoga. Vous trouverez également des capsules vidéo sur les télés pour vous permettre de suivre des cours en chambre et à l'heure qui vous convient. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Cadeau Saint-Valentin de dernière minute? Offrez le Montville pour la Saint-Valentin à votre bien-aimé. Les cartes cadeaux digitales sont à moins 10% jusqu'au 14 février. Rendez-vous sur hotelmontville.com dans l'onglet « Promotion ».
Et Dernier bloc de l'émission, Hugues, et avant qu'on passe aux deux autres tournois dont on va regarder, trois autres tournois sur lesquels on va regarder une certaine attention, tu veux revenir sur ces codes d'écoute encore là, qui ont été compliqués en début de saison, autant pour la série Breakpoint de Netflix. Je pense qu'on est déçu un peu de ce côté-là. Et ben, les audiences télé, là, c'est pas facile dans le sport et c'est le tennis a la même. Subit le même sort d'une certaine manière.
Oui, donc la chronique La valeur du tennis qu'on commence à mettre en place comme segment régulier dans le podcast. Effectivement, les chiffres sont sortis au niveau international, américain et au niveau local en Australie pour l'Australian Open cette année. Et c'est la finale du côté masculin qui a eu le moins bon score d'audience en 10 ans, alors une décennie pour la finale des hommes. La finale des femmes a mieux fait que la finale des hommes cette année, même si Djokovic allait gagner son 22e Grand Chelem et se retrouvait maintenant à égalité avec Nadal en termes de titre majeur en tournoi du Grand Chelem. Et on l'a dit plusieurs reprises dans le débat du Greatest of All Time, au niveau des chiffres, il prend une place qui va lui revenir à lui seul très, très bientôt. Mais c'est une performance décevante dans les audiences télé. Près de moins 40% tant au niveau de ESPN côté américain que du diffuseur local Channel 9 en Australie, qui a payé 500 millions pour les droits et qui se retrouve à devoir payer des compensations parce que les chiffres qui avaient été annoncés n'ont pas été livrés. Donc, une année décevante là, pour l'Australian Open. Et je dirais, pour les organisateurs du tennis, ITF, WTA, et l'ATP, c'est un petit peu décevant parce qu'on avait lancé en même temps que le premier Grand Chelem de la saison, une semaine avant, la série Breakpoint de Netflix, qui devait aussi porter les audiences télé avec une manière de découvrir des joueurs, de donner un accès « behind the scene », comme on dit, vraiment pour les fans. Et on s'attendait à un effet « drive to survive » pour ce que ça a pu avoir au niveau de la Formule 1 pour le tennis. Et ça ne s'est pas matérialisé. Selon les chiffres de Netflix et leur palmarès par pays, Breakpoint n'a pas été dans le top 10 de Netflix dans aucun pays à travers le monde. Pour ça, Netflix, pour Netflix, c'est un échec, c'est un flop, là. Donc, ils vont devoir redresser la situation pour la deuxième portion de la première saison qui sera diffusée. Donc, 5 prochains épisodes dans le cadre de Roland-Garros au mois de juin. Mais ils ont une côte à remonter si on veut que Netflix renouvelle cette série-là pour une deuxième saison parce qu'ils ne sont pas dans les standards habituels de Netflix. Et on sait que la boîte de production Box to Box Entertainment, une boîte de Londres qui a fait aussi Drive to Survive, avec beaucoup de succès, lance dans les prochains jours un peu le même concept pour le golf. Donc, ils mettent tous leurs efforts sur le golf en ce moment. Donc, Breakpoint combiné aux audiences décevantes de l'Australian Open, notamment du côté masculin, fait que le début de saison en termes de momentum n'est pas celui que les organisateurs et les promoteurs du tennis auraient souhaité en général. Donc, il va falloir que le Sunshine Double revienne mettre ça sur le bon chemin. Donc, c'est un début de saison un peu décevant globalement. Et surtout qu'on voulait amener une nouvelle clientèle. Tu dis, bon, on a Djokovic qui bat un record, qui atteint un nouveau palier. Breakpoint qui devait donner un accès à monsieur tout le monde, madame tout le monde, au mainstream, au tennis, et ça s'est pas vraiment avéré. Et moi, je repose la question encore, est-ce que Djokovic est un problème pour les audiences du tennis? Donc, très, très polarisant, mais on voit que la cote de sympathie, d'amour, d'intérêt pour ces matchs, même ces matchs historiques comme la finale du US Open qu'il a perdu contre Medvedev en 2021, où il pouvait faire le grand chelem, qui n'avait pas été aussi écouté que la finale des femmes entre Leila Fernandez et Emma Raducanu. Et encore une fois, pour son 22e grand chelem, une cote d'écoute décevante. Donc, est-ce que Djokovic nuit dans une certaine mesure à la popularité du tennis pour le grand public? Je laisse la question ouverte.
Ben, la question que tu poses, elle est absolument pertinente. Et j'avoue, je me pose aussi la question, tu sais, Nick Kyrgios, et pourtant, il réussit quand même à attirer une certaine part des codes d'écoute, j'en suis convaincu. Alors, quel est le problème avec Novak Djokovic comme tel? Je ne sais pas, D'un point de vue tennis, c'est fabuleux ce qu'il peut réussir à faire. Alors, bon, je comprends là, sa personnalité. Il peut avoir perdu des fans là, dans les deux dernières années. Enfin, ta question que tu poses, elle est très pertinente. Moi, j'en ai une pour toi, puis je ne veux pas te lancer en dessous de l'autobus là, parce que tu n'es peut-être pas préparé pour ça, mais je vais le faire quand même.
Tu es toujours prêt, Alex.
Oui, je sais. C'est pour ça que je me le permets. Mais est-ce que c'est, selon toi, la fin des grands deals de télévision? Tu sais, tu me parlais de 500 millions de dollars. Là. Est-ce que
Pour les droits locaux, hein, on s'entend.
Pour les droits locaux, ben, tu sais, oui. Parce qu'à une époque où c'est de plus en plus dur de protéger tes droits, au sens où les images pour lesquelles tu payes des droits exclusifs, tu peux quasiment plus les protéger parce que ça se retrouve sur des streams illégales. Monsieur, madame, tout le monde prend tes images, fait de l'argent avec ça. Est-ce que c'est la fin d'une ère en termes de télé? Il faudra revoir le modèle, selon toi?
Je suis pas certain qu'on est rendu là encore. Si on regarde les derniers deals de la NHL, notamment de la NFL aussi, et oublie pas que la NFL a livré un 200 millions d'écoutes hier et que le coût du 30 secondes avait monté de façon substantielle entre 2022 et 2023. Tu l'as dit, 7 millions, c'était à 5,2 il y a un an. Donc, pour le diffuseur, il y a de l'argent à faire avec des grosses propriétés, des grosses licences de sport encore. Je pense que le contexte pour le tennis en ce moment fait en sorte qu'on termine une époque où les gens ont tellement aimé Federer et Nadal qu'il y a un petit deuil qui se fait en ce moment dans la population en général. Je ne parle pas des fans de tennis hardcore, des vrais mordus comme nous, mais je pense qu'il y a juste un petit creux de vague là, qui va sûrement se combler quand un nouveau grand nom autre que Djokovic, je dois le dire, soit là de façon régulière et que les gens le connaissent un peu mieux. Là, je reviens sur Kyrgios un peu. Kyrgios, les gens le regardent parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. C'est un talent fabuleux puis il peut battre n'importe qui, on le sait. C'est un des joueurs qui a la meilleure fiche contre le Big Three d'ailleurs. Il a battu tous les joueurs du Big Three. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont accompli ça. Et on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc, c'est bon pour attirer de la curiosité. Quelqu'un qui est en mode essai pour le tennis, qui a une curiosité justement d'aller voir les matchs. Donc, c'est ça qui joue en faveur de Nick Kyrgios pour les audiences télé. Et cette curiosité, cette fascination-là, c'est le choix que Netflix a fait en le mettant comme premier protagoniste du premier épisode de la série Breakpoint. C'est pas un hasard si c'était lui, évidemment. Donc, c'est un entertainer important, comme il l'a déjà dit, « Are you not entertained » dans un de ses matchs à Washington il y a une couple d'années. Mais Djokovic, c'est pas la même chose. Les gens ne réussissent pas à être allumés, à triper sur son style de jeu qui est fabuleux. C'est au niveau des qualités tennistiques à proprement dit, c'est le meilleur au monde, c'est sûrement le plus grand de tous les temps, mais ça ne colle pas avec le grand public semaine après semaine. Donc c'est un enjeu là, auquel on fait face en ce moment. Et juste pour compléter sur Kyrgios, puis je parlais des chiffres en Australie. N'oubliez pas qu'en 2022, Ash Barty avait gagné ce tournoi-là pour l'Australie, en Australie. Kyrgios avait gagné le double avec Kokkinakis et fait quand même un match sublime contre Medvedev au deuxième tour, si je ne me trompe pas. Donc, les stars locales n'étaient pas présentes en Australie aussi dans les derniers matchs, qui a pu affecter les cotes des côtes aussi. Mais donc, ça, c'est pour compléter sur ce qui s'est passé du côté Australie. Mais moi, j'ai bien hâte de voir... Par exemple, si Nadal ne joue pas Roland-Garros, qu'est-ce qui va arriver si c'est Djokovic qui porte le tout jusqu'en finale et qui gagne la finale de Roland-Garros? Très hâte de voir comment les codes d'écoute vont se déployer là, dans les prochaines semaines et jusqu'au prochain Grand Chelem qui sera Roland-Garros.
Bon, ben écoute, il n'y a que toi qui peux parler avec autant de pertinence et avec autant de facilité de ces sujets-là, puis c'est pour ça qu'on aime t'avoir au podcast. Rapidement, avant qu'on quitte et quelques autres tournois qu'on va surveiller, il y a Delray Beach, Hugues, et Chapeau, il est dans ce tableau-là, Denis Shapovalov à Delray Beach. Tu t'attends à quoi de Chapeau? Il a connu quand même un bon début de saison. Est-ce que ça se poursuivra dans son cas, là?
Delray Beach, tournoi américain, donc ATP 250, mais quand même, Taylor Fritz est le premier favori. Très, très gros tableau de joueurs américains avec les DJ Wolf, Mackenzie McDonald notamment, Ben Shelton qu'on va revoir qui a fait un super tournoi en Australie cette année, qui a surpris beaucoup de gens. Jack Sock, le vétéran qui est toujours là aussi. Tommy Paul en bas du tableau. Mais évidemment, on va voir Shapovalov cette semaine, qui est quand même le troisième favori de ce tournoi-là avec un bail au premier tour, avec un tableau là, sur les trois premiers tours qui devrait être jouable. Souhaitons que Dennis aura une belle semaine, qu'il pourra se rendre jusqu'à... il est du côté de Taylor Fritz, si je ne me trompe pas, oui. J'aimerais bien voir ce match-là contre Taylor Fritz.
Il s'affronterait en demi-finale.
Ouais. On lui souhaite parce qu'il faut qu'il commence à enchaîner un petit peu aussi Dennis. J'étais pas certain qu'il était pour faire ce tournoi-là. Je suis content de le voir là. Donc, il va être déjà accoutumé aux conditions du côté des États-Unis pour la séquence du Sunshine Double. Là. Donc, tableau très, très prenable là, en début de semaine pour Dennis, mais je lui souhaite une demi-finale cette semaine.
Ouais, ben écoute, ça se pourrait très bien. Il a un bail au premier tour et au deuxième tour, il aurait d'une manière ou d'une autre un adversaire très prenable, soit l'Américain Michael Moore ou Kovacic, là, également un Américain. Si à Rotterdam, c'est jam-pack, comme on dit, c'est pas tout à fait le cas non plus à Delray Beach. Là, il y a que, bon, comme tu le disais, Ben Shelton, Taylor Fritz qui sont dans ce tableau-là. Peut-être Tommy Paul dans le bas du tableau, là, mais ce sont pour l'essentiel les noms à retenir dans
un seul joueur du top 10. Un seul joueur du top 10.
Alors, ben voilà, ça répond à la question. Ouais. Alors, on pourrait très bien voir Shapovalov. S'il bat Taylor Fritz, ce sera à lui de perdre ce tournoi-là dans ce cas-là, parce que c'est un genre de tournoi qui peut très bien remporter. Enfin, ben voilà, ce sera intéressant de suivre Chapeau. À Buenos Aires également, il y a beaucoup d'Argentins là, dans le tableau. Là. Je regardais ça un peu plus tôt. Alors, si vous êtes un fan de l'Argentine, ben peut-être que vous pouvez suivre ce tournoi-là. Ouais.
Et Carlos Alcaraz en action, donc du côté de l'Argentine, avec évidemment un bail au premier tour. Ça va être intéressant de voir dans quel état sera Alcaraz, lui qui a perdu son premier rang mondial, qui voudra reprendre. Donc, j'ai hâte de voir comment il va entamer sa saison. Potentiel match au deuxième tour contre Fabio Fognini. Je vais essayer de voir ce match-là parce que, encore une fois, Fognini, toujours un joueur talentueux, très divertissant, même s'il est un petit peu ralenti depuis quelques années, fin de carrière. Mais c'est un tournoi que Alcaraz devrait gagner normalement.
C'est un tournoi sur terre battue oui. Pour les gens qui se posent la question. Dans une période un peu, pas bizarre, là, mais éclatée.
Entre deux.
Ouais, c'est ça, du tennis où il y a des tournois à peu près partout sur la planète, sur différentes surfaces. Alors, il y en a pour tous les goûts dans le cas des amateurs de tennis. Et du côté de la WTA, ben, ce sera le tournoi au Qatar là, également qu'on devra surveiller. Avant qu'on se quitte, Hugues, le nouveau classement de la Coupe Davis est sorti. Tu voulais en glisser un mot? Pour quelle raison?
Oui, je voulais en parler. Vous savez, le Canada a remporté la Coupe Davis, donc qui est le championnat du monde par équipe du tennis. Mais de gagner la Coupe ne garantit pas que nécessairement classé au premier rang. Et les Canadiens, avec le nouveau classement de cette semaine, il y a eu une première ronde de match de qualification pour la Coupe Davis 2023 que le Canada n'a pas à faire parce qu'on est classé dans les 8 meilleurs pays au monde. Donc, on n'a pas à faire ce tour de qualification. Le Canada est maintenant au premier rang mondial. Donc, on est la nation de tennis numéro un du côté masculin, Alexandre. Et je voulais le souligner parce que c'est un accomplissement important. Encore une fois, il y a une vingtaine d'années, je ne pensais pas qu'on pourrait atteindre ce niveau-là face aux grandes nations historiques que sont l'Espagne, la France, les États-Unis, l'Argentine, la Russie maintenant, plus récemment, mais le Canada maintenant du côté masculin est au premier rang du classement mondial par nation.
Tu sais, si vous êtes un fan modéré de tennis ou un nouveau fan, c'est un bon timing au Canada pour embarquer dans le train, comme on dit, parce qu'on va vivre un 5, 6, 7 ans, 10 ans peut-être d'années dorées pour le Canada avec parmi les meilleurs joueurs au monde. Alors, c'est un bon timing si vous êtes un fan de tennis.
Du côté féminin aussi, hein, je le répète, on est dans les 8 meilleurs pays du côté féminin aussi. Et cette génération-là, qui est une génération dorée, ça vaut autant du côté des filles que du côté des garçons. Hein.
Ah, il y en a d'autres qui s'en viennent. Pensons seulement à Victoria Mboko qui a déjà réalisé des trucs spectaculaires au niveau junior. Là, c'est un nom que vous allez entendre dans les prochaines années. Hugues, c'est déjà la conclusion de l'émission. Je le rappelle, Nicolas Richard était en affectation pour la presse. Alors, comme il est absent, c'est toi qui auras le lourd mandat, mais l'important mandat de terminer l'émission. Hugues Léger.
Alors, bon tennis, Alex. Bon tennis, Nico, où que tu sois. Bon tennis, tout le monde. Et bon tennis, Félix, cette semaine à Rotterdam pour un nouveau titre.